Gironde Mag, le magazine de mon département. Numéro 120, octobre, novembre, décembre 2017. À la une de ce numéro, autonomie. Accueillants familiaux, ils ouvrent leurs portes, aux pages 12 et 13. Près de chez vous, page 6, jeunes et saisonniers, une solution logement. Histoire, page 26, domaine de Certes, la nature préservée. Et producteur de Gironde, page 30, le chapon, poulet giron et girondin. Éditorial de Jean-Luc Glaise, président du conseil départemental de la Gironde.
La démographie de notre pays place la question de l'âge et de l'accompagnement des personnes âgées au cœur des préoccupations. Nous voici face à des défis majeurs d'avenir pour les familles et pour la puissance publique. Vieillir dignement et heureux, le plus tard possible à domicile. Assurer le maintien de l'autonomie pour nos anciens, c'est aussi l'affaire d'équipes entières de professionnels. Les auxiliaires de vie, les animateurs, les médecins, infirmiers, aides-soignants, les techniciens assurent au domicile ou en établissement un accompagnement indispensable. Parmi ceux-ci, les accueillants familiaux offrent une alternative stimulante aux personnes âgées. En ouvrant les portes de leur maison, il leur propose une place au cœur de leur famille. Devenir accueillant familial, c'est un choix fort au service des autres, une relation humaine qui se crée et une activité rémunérée. Pour la personne âgée, l'accueillant familial est une source de liens et d'échanges dans un environnement rassurant. C'est donc du gagnant-gagnant. N'hésitez pas à tenter cette nouvelle expérience. Vous trouverez dans ce numéro de Gironde Mag toutes les informations utiles. Et puis, ne manquez pas l'automne festif en Gironde. Je vous invite à l'inauguration du domaine de Certes et Graveyron du 7 au 15 octobre. Après 10 ans de travaux, le poumon vert du bassin montre un nouveau visage. Venez découvrir cet espace naturel unique, sa faune et sa flore exceptionnelles. Évadez-vous tout près et venez découvrir l'inattendu.
Au sommaire de ce numéro, près de chez vous, des pages 3 à 11, avec le Libournais, page 3, le Médoc, page 4, Haute-Gironde, page 5, le Bassin, page 6, Hauts-de-Garonne, page 7, Bordeaux, page 8, Graves, page 9, Sud-Gironde, page 10, Porte du Médoc, page 11. Deuxième partie, Force solidaire au pluriel, des pages 12 à 23, avec Un métier, l'accueil familial, page 12, Certes et Graveyron, terre d'utopie, page 14, Collège au pluriel, bon plan pour le futur, page 16. Contrat aidé, une suppression à haut risque, page 20. MAM des champs, page 22. MAM des villes, page 23. En troisième partie, à la découverte, page 24 à 31. Tête de Gironde, page 24. Histoire, page 26. Itinérance, page 28. Producteur de Gironde, page 30. Les différents partis politiques s'expriment aux pages 32-33, et enfin l'agenda se situe aux pages 34 et 35. Ça se passe près de chez vous. Libournais, Smigval Market, une déchetterie nouvelle génération. Redonner de la valeur aux objets et matériaux pour une seconde vie, telle est l'ambition du Smigval Market, toute nouvelle déchetterie ouverte à Veyre depuis avril dernier. Un concept innovant. Développé par le Smigval, où il est possible de donner, prendre et recycler.
Le Smigval a fait le pari d'ouvrir une déchetterie pas comme les autres. Réservée aux habitants du territoire munis d'une carte, il est possible d'y donner des objets, d'en prendre et d'y recycler. Les adeptes sont conquis. Daniel A. de Cadarsac, habitué à déposer des déchets végétaux, repart ce jour-là avec 2 chaises et des CD. Bénédicte G. de Libourne découvre. J'ai laissé un moteur de piscine inutile pour moi, mais qui peut servir à d'autres. Paul G., jardinier passionné, habitant en Vert, passe une fois par semaine. Au printemps, je déposais mon surplus de pieds de tomates et de menthe. Là, je récupère des godets en plastique et je cherche des bocaux pour faire mes conserves. Sur plus de 5000 m², le Smigval Market se partage en 3 espaces. La maison des objets, au rayon spécifique, le préau des matériaux, pour les gros volumes, et les dépôts au sol, de bois, gravats, végétaux. du débarras aux nouvelles ressources. Des agents valoristes, comme Agnès ou Virginie, formés en recyclerie, orientent les particuliers. Le lieu est coloré, organisé, propre. Le changement d'ambiance est net. Les usagers ont un autre regard sur leurs déchets et sur les agents présents. Sur ce territoire de 139 communes labellisées « zéro déchet, zéro gaspillage », on est passé du « je me débarrasse » à « je trie », voire même « j'offre de nouvelles ressources », explique Nicolas Sénéchaud, directeur général du SMIPVAL. Le site n'a pas vocation à réparer les objets. Aussi existe-t-il des partenariats avec des associations. Le livre vert collecte les livres, puis les vend ou les recycle. Les vélos sont retapés par Cyclo Pierrot pour les vendre ou leur donner un usage social. L'association Le Lien récupère les matériaux destinés à des opérations liées à l'habitat social. Le concept novateur est un pari gagnant. Il permet déjà de réduire massivement l'enfouissement. Premier bilan après quelques mois d'activité. Une diminution de 60% des déchets enfouis et la valorisation de près de 9 objets sur 10 apportés. Le département suit le projet avec attention dans le cadre de ses politiques liées à la transition énergétique et à l'économie circulaire.
Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais, ou SMICVAL, 8 route de Vidot à Veyre. Ouverture du lundi au samedi, l'été du 1er mars au 31 octobre, de 9h à 12h et de 14h à 18h, l'hiver du 1er novembre au 29 février, de 9h à 12h et de 13h à 17h. Formation au compostage, pôle environnement de Saint-Denis-de-Pile, tous les premiers mercredis du mois, de mars à novembre, résidence des personnes âgées à Pugnac, tous les premiers jeudis du mois, de juin à octobre. www.facebook.com/stopdéchets-au-pluriel.fr/ www.stop-déchets-au-pluriel.fr prévention du SMICVAL www.écomatisme-au-pluriel.fr.
Flash, 10 juillet. Dans le cadre de son aide à l'investissement pour les établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans, le département choisit d'accompagner le projet de la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnet. La création de la microcrèche de Saint-Pédarmance sera ainsi accompagnée avec une enveloppe de 25 650 euros.
MEDOC, aide éducative à domicile, un vrai soutien aux parents. Difficile d'imposer un cadre à un petit garçon, véritable tyran à domicile. Des conflits répétés avec son ado. Une communication quasi inexistante entre des ex-conjoints sur l'éducation. Des enfants en souffrance, des parents démunis. L'aide éducative à domicile, AED, peut être une réponse.
Pour éviter que la situation familiale ne se dégrade, l'association Rénovation habilitée par le département intervient sur le territoire géographique du pôle territorial de solidarité du MEDOC, mais aussi sur ceux du bassin et des portes du MEDOC. En collaboration étroite avec l'aide sociale à l'enfance du département, l'AED s'adresse à des parents confrontés à d'importantes difficultés qu'ils ne peuvent résoudre seuls, explique son directeur, Franck Dubois. Réelle action préventive, cette mesure vise le bien-être de l'enfant et de ses bonnes relations familiales. Avec l'accord des deux parents, parfois même à leur demande, l'AED apporte un soutien matériel et éducatif à la famille dans les différents domaines de la vie quotidienne. C'est vraiment un travail de prévention, confirme l'éducatrice Cécile Carnis. Lorsque le principe de notre intervention est validé, je me rends tous les 15 jours au domicile afin d'essayer de comprendre le nœud du problème et tenter de trouver des solutions. On commence par apprendre à se connaître, à se faire confiance. Faire circuler la parole. Les parents conservent le plein exercice de l'autorité parentale, mais cet accompagnement nécessite une adhésion et une collaboration active de la famille. Nous sommes là pour faire émerger et circuler la parole dans le respect de chacun. On retraduit parfois les propos, on aide à mettre des mots, à sortir ce qui fait mal, pour aller vers l'apaisement, précise Cécile Carnis. De nombreux partenaires sont également associés à l'AED, les assistantes sociales, la protection maternelle et infantile, PMI, les écoles, collèges, lycées, les services de soins, tout ce qui tourne autour de la problématique de la famille. D'une durée minimum de 6 mois, renouvelable, l'AED s'étend en moyenne de 2 à 3 ans le temps nécessaire à la famille pour trouver ses propres solutions. Parce qu'un problème familial n'est pas forcément insoluble, parce qu'il n'y a aucune honte à se faire aider, pensez à l'AED. Le métier de parent est toujours difficile.
Note de bas de page, l'AED est un service entièrement financé par le département, sous convention depuis 1970.
AED Rénovation, 287 Avenue de la République, 33 200 Bordeaux. 05 56 50 17 79 www.renovation.asso.fr Pôle territorial de solidarité du Médoc 1 B rue André Audubert AUDUBERT 33 480 Castelnau de Médoc 05 57 88 84, 90.
Air Festif, festival organisé tous les 2 ans par l'association Rénovation au Rocher de Palmer au mois de septembre avec village associatif, conférences, concerts gratuits. L'association souhaite réunir public et professionnels en organisant une manifestation culturelle de grande ampleur inédite dans le secteur. Il s'agit de renverser les représentations négatives sur les personnes dites vulnérables ou empêchées et au contraire de valoriser leurs compétences.
En chiffres, 28 éducateurs, 360 familles, capacité de 580 à 600 enfants accompagnés, soit environ 700 enfants par an. Flash, 22 juin, le président Jean-Luc Glaize confirme son soutien aux écoles des communes de moins de 10 000 habitants. Pour l'occasion, 3 inaugurations de groupes scolaires profondément transformés ont lieu à Brac, La Marque et Cussac-Formédoc. Le département a engagé plus de 288 000 euros dans ces opérations.
Haute-Gironde, sur les routes, le camion Santé. Coloré et graffé, si vous croisez le camion Santé sur les routes de Haute-Gironde, vous le reconnaîtrez. Depuis 1 an et demi, il sillonne le territoire proposant à toutes et tous un programme de prévention et de promotion de la santé.
Sur un territoire où les maladies chroniques sont prépondérantes, le centre hospitalier de Blaye et de très nombreux partenaires, dont le département, ont souhaité améliorer la santé de la population par un dispositif de prévention itinérant, le camion santé. Les mauvais indicateurs pourraient diminuer si un certain nombre de précautions et de comportements à risque étaient enrayés en amont, explique Pauline Catan, psychologue, responsable du projet et conductrice du camion. Facilement identifiable, car totalement graffé par une 20aine de jeunes issus des PRIJ,
PRIJ, point rencontre information jeunesse,
de Blaye, Bourg et Saint-André-de-Cubzac, le camion est à la fois cabinet de consultation, d'écoute et d'information. Au cours des 109 actions réalisées, la sensibilisation s'est effectuée autour des addictions, de la nutrition, de la promotion de la santé, de la vie affective et sexuelle, souligne Pauline Catan. Mobilisation partagée. Tantôt seule, tantôt accompagnée d'experts médico-sociaux, la psychologue positionne son camion en divers lieux du territoire. Lorraine Mauroux, 22 ans, fut tour à tour bénéficiaire et actrice d'une action menée. Au cours de mon service civique à Unicité, le camion est intervenu à 2 reprises et j'ai pris conscience de mon excessive consommation de soda. J'ai pu, dans ce même cadre, monter un projet sur la promotion des fruits. Un atelier de 2 heures proposé au Resto du Cœur de Blaye en présence d'une diététicienne. Des permanences régulières ont ainsi lieu au Secours Populaire et au Resto du Cœur sur les marchés locaux ou dans des structures éducatives. Ponctuellement, le camion participe aux manifestations locales. Ainsi, plusieurs haltes ont été organisées cet été au lac du Moulin Blanc. De plus, il était présent au Black Bass Festival à Bro et Saint-Louis, soutenu par le département au titre des scènes d'été. Enfin, les relais de campagne de santé publique sont aussi l'occasion d'intervenir. Le camion devient un levier pour agir sur les inégalités de santé, en permettant la mobilisation des publics vers un parcours de soins adapté. En sortant la santé des murs de l'hôpital, le but est de pouvoir écouter, discuter, informer. Ensuite, nous pouvons orienter les gens touchés vers des lieux de ressources en matière de santé sur le territoire. Il n'est pas rare que Pauline Catan, après avoir orienté certaines personnes vers des spécialistes, les voit revenir vers elle pour l'informer de leur suivi. Succès d'un dispositif inédit et innovant. D'autres territoires, Médoc, Bassin, envisagent également de faire l'acquisition d'un camion de santé.
Pauline Catan, psychologue de la prévention, coordinatrice et animatrice du camion santé, direction des affaires médicales, téléphone 05 57 33 46 63, mobile 06 42 73 80 16, p.catan@chblaye.fr.
En chiffres, 90 000 habitants sur le territoire, 109 actions réalisées, 3 800 habitants ont bénéficié de son action de prévention et d'information. Flash, 7 juin, le président Jean-Luc Glaize annonce la création de la plus grande aire de covoiturage de Gironde à Saint-André-de-Cubzac avec 200 places. Pour cette capacité, un investissement de 700 000 euros sera nécessaire. 86 aires sont d'ores et déjà en service, 49 nouvelles sont programmées avec un engagement départemental de 3 millions d'euros.
Le bassin, jeune et saisonnier, une solution logement. Attentif aux besoins du territoire, Gironde Habitat conçoit des projets adaptés aux populations locales. À la Teste de Buch, l'Office girondin débute cet automne la construction de 40 logements sociaux, d'un foyer de jeunes travailleurs de 55 places et d'une micro-crèche de 10 places sur le site de l'hippodrome.
Ossature bois, lignes épurées et couleurs claires, la future résidence devrait se fondre dans le paysage en reprenant tous les éléments de l'architecture traditionnelle. Elle viendra également combler un manque important. On cherche à chaque fois à répondre aux besoins spécifiques du territoire. Là, nous avons vraiment voulu faire du sur-mesure, analyse Muriel Corporandi, directrice du développement chez Gironde Habitat. La structure comptera ainsi 40 logements sociaux en location, allant du T2 au T4. S'ajoute un foyer jeune travailleur de 40 logements, représentant 55 places, et, cerise sur le gâteau, une micro-crèche de 10 places. Le projet répond au manque de logements sur le bassin d'Arcachon et en particulier pour les jeunes. Cette problématique concerne directement les salariés et les apprentis des écuries de l'hippodrome du Becquet. Les employeurs des écuries de course considèrent que le logement est un frein pour le personnel. La société des courses a ainsi pris sur son territoire et cédé une partie du terrain à Gironde Habitat pour la réalisation de la résidence. Une offre nouvelle. Sur le site se côtoieront ainsi des apprentis, des salariés et des familles du territoire. Le foyer pourra également intéresser les mineurs et les jeunes majeurs qui fréquentent les centres de formation d'apprentis, CFA du secteur, de même que les stagiaires ou les saisonniers. De grandes terrasses extérieures, des jardins et des espaces de jeu pour les enfants permettront de créer des lieux d'échange et de partage. Quant à la micro-crèche, elle occupera l'entrée de la résidence. Il s'agit d'un mode de garde à horaire atypique qui fonctionnera tôt le matin et les week-ends pour les parents travaillant sur l'hippodrome. La crèche proposera une offre nouvelle pour le secteur. L'investissement représente un montant total de 7,8 millions d'euros, dont 388 000 euros apportés par le département.
Flash, 13 juillet. Le nouveau syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon est installé. Il concerne 14 ports à Arès, Andernos-les-Bains, Lanton, La Teste-de-Buch et Gujan-Mestras, dont les 6 ports départementaux sont transférés à la structure. Avec un budget opérationnel de 2,6 millions d'euros, le syndicat regroupant 22 agents est présidé par Jean Touzeau.
Haut-de-Garonne, une boutique sans étiquette. Un livre, une poupée, un vêtement ou un bijou fantaisie, tout est gratuit. Donner sans contrepartie, prendre sans condition, voilà ce que propose la boutique sans étiquette installée dans la maison de la citoyenneté de Carignan. Cette caverne d'Ali Baba, où toutes les étiquettes sont bannies, favorise le lien et la mixité sociale pour une consommation raisonnée.
Ouvert à tous depuis fin 2015, ce nouvel espace d'économie circulaire, solidaire et écologique, s'anime 2 fois par semaine autour de sa dizaine de bénévoles. Le don est au cœur de la démarche. Les objets récupérés doivent être en bon état et facilement transportables. Chacun y apporte ce qu'il veut et emporte ce qu'il souhaite sans contrepartie et conditions de ressources ou de statut. On peut très bien prendre, sans donner ou inversement, peu importe, explique Christelle Petit, présidente de l'association. Vaisselle, petit électroménager, jouets, livres, retrouvent alors une seconde vie. Sur les 8 tonnes d'objets récoltés en 2016, 7 ont été réinsérés et 1 tonne donnée à des associations et recycleries locales. Des abus? Aucunement. Les visiteurs se montrent généreux et très respectueux de l'éthique défendue. Jeunes actifs et personnes âgées se côtoient. Certains trouvent un objet qui fait leur bonheur, d'autres repartent les mains vides. Mais tous sont riches des mots échangés, du temps passé à discuter, à partager. Au-delà de l'objet, il y a là un projet humain porteur de valeurs de convivialité, de solidarité et de transition environnementale et citoyenne. Dons et services rendus. Les dons se font également sous la forme de services. Une couturière à la retraite a proposé un coup de main pour les ourlets, ou d'activités culturelles. Ainsi, tout au long de l'année, de nombreuses manifestations gratuites ont été présentées avec beaucoup de succès. La projection du film « Demain » au cinéma Anamorphose, des tours de poney, un spectacle de danse par le collectif L et G de Le, ou encore une animation de jeux géants avec la ludothèque Terre de jeu. Itinérante plusieurs fois par an, la boutique sans étiquette organise également des zones de gratuité dans divers lieux du département, toujours sur ces mêmes principes de réemploi et de solidarité. En projet pour la rentrée scolaire 2017-2018, l'ouverture d'une boutique solidaire au sein même du lycée Max Linder de Libourne, qui sera gérée par les élèves. L'idée est née suite à notre passage l'an dernier lors de la Semaine européenne de réduction des déchets. Les lycéens ont découvert le don, l'idée de prendre sans payer, et cela crée beaucoup de surprises et d'émotions, précise Christelle Petit. De cette initiative, quelquefois perçue comme déroutante, naissent des rencontres et des échanges conviviaux. Ce concept innovant plaît et dépasse la communauté de communes des coteaux bordelais. On y vient de Bordeaux, d'Ambarès, de Bruges, mais avec une fréquentation en progression et face à son succès grandissant, le magasin de 20 mètres carrés, hébergé gracieusement par la commune de Carignan, se remplit très vite. La boutique sans étiquette souhaiterait s'installer dans un local de 70 mètres carrés qui serait beaucoup plus adapté.
Permanence, le vendredi de 16h45 à 18h30 et le dimanche de 11h à 12h30. Maison de la citoyenneté, 5 rue de Verdun à Carignan de Bordeaux, www.facebook.com/laboutique-sans-étiquette/ laboutique-sans-étiquette@gmail.com, www.ecomatismes.fr.
Flash, 10 juillet. Les élus du département votent une aide à la commune d'Ambarès et La Grave pour la création de 14 places supplémentaires dans le cadre du transfert de la crèche multi-accueil Tom Pouce dans les locaux de l'école maternelle La Souris Verte. Avec une aide de 30 600 euros, L'établissement pourra désormais accueillir 30 enfants.
Bordeaux. Prendre soin du lien. Une asso, des aînés, l'échange. Lutter contre l'isolement des personnes âgées et leur permettre de retisser des liens sociaux, c'est l'objectif de l'association bordelaise Prendre soin du lien, soutenue par le département pour ses actions innovantes.
Au départ, je voulais distraire les personnes, leur proposer des activités. Je pensais que leur besoin était de se trouver des occupations. Au fil du temps, je me suis rendu compte qu'elles revenaient surtout pour le lien social, explique Christine Cocuel, animatrice diplômée en gérontologie, qui a créé l'association Prendre soin du lien à Bordeaux en 2008. Elle est accompagnée par Marie-Noël, salariée de l'association. Rencontrer du monde, échanger, tout en se distrayant. C'est désormais ce que font ces 18 femmes d'un âge moyen de 86 ans, un après-midi par semaine, en participant au lien aîné. Chaque jeudi, Christine et Marie-Noël vont les chercher chez elles et les accompagnent au domicile d'une d'entre elles. Chacune leur tour, elles retrouvent pour un moment le rôle d'accueillant, ce qui leur fait du bien car elles n'invitaient plus chez elles, souligne Christine Cocuel. Ensemble, elles passent quelques heures distrayantes. Scrabble, quiz, gym sur chaise, jeux de mémoire, fêtes d'anniversaire et, surtout, discussions et rires. Ici, on ne s'ennuie pas. C'est toujours très gai. Isabelle est une des habituées. Ces rendez-vous amicaux m'ont changé la vie. Chaque jeudi, je sais que je sors avec des personnes agréables qui ont un peu la même vie que moi, dit-elle avec un sourire. Ginette acquiesce. Je ne vois plus personne, alors me retrouver ici, c'est important. Et c'est toujours très gai, glisse-t-elle. Lorsqu'elles ne sont pas au domicile de l'une d'entre elles, elles vont au cinéma, au musée, en balade ou faire les boutiques. Autre action phare de l'association, la mobile aînée, une sortie intergénérationnelle en déambulateur ou rollateur sur les quais de Bordeaux, pour faire changer le regard de la société sur le déplacement des personnes âgées. L'an dernier, le département a soutenu les actions innovantes de prendre soin du lien à hauteur de 11 000 euros.
Association Prendre soin du lien, 40 Allée d'Orléans, immeuble Le Splendide à Bordeaux, 06 75 01 40 81, apsoindulien@gmail.com, gironde.fr/mobilaines.
Flash, 7 juillet. Le président Jean-Luc Glaize rend visite à Alter Insertion, avenue Thiers. Là, 5 personnes handicapées ont choisi de mutualiser leurs prestations de compensation du handicap, PCH, au sein d'un habitat collectif. La formule innovante, touchant 24 maisons partagées de ce type en Gironde, fait l'objet d'un protocole signé avec le département. À l'horizon proche, l'ouverture d'une 25e maison.
Grave, du temps, pas de l'argent. Rayonnant sur les communes de Canéjean, Sestas, Léognan, Gradignan, Pessac, Villeneuve-d'Ornon et les communes avoisinantes, l'association L'Accorderie propose à ses adhérents des services payables dans une monnaie peu commune, le temps.
Contrairement à l'adage bien connu, le temps, ce n'est pas que de l'argent. Et ça, les membres de l'accorderie Canéjean Pays des Graves l'ont bien compris. Notre richesse, c'est le temps, déclare Marie Hudeau, animatrice du réseau sur place. Le fonctionnement est simple. Tout un chacun peut s'inscrire pour profiter des services de la communauté de manière libre et totalement gratuite. L'aide pour faire le ménage vaut ni plus ni moins qu'un dépannage informatique, une correction de texte, de la couture ou encore des conseils en décoration. Seule obligation, mettre au minimum 2 heures de son temps à disposition de l'accorderie. À chaque utilisateur est attribué un compte temps, lequel se verra débité ou crédité selon les services utilisés ou rendus. Pour Marie Hudeau, l'accorderie c'est une sorte de boîte à outils. Chacun a une capacité qui sera utile à quelqu'un d'autre et nous faisons le relais. Pour s'inscrire, c'est simple. Il suffit de se rendre dans la permanence la plus proche de chez soi et de remplir un formulaire. Créer du lien social. En dehors des prestations qui se déroulent chez les accordeurs et des ateliers aux locaux de l'accorderie, partagés avec le CCAS de Canéjean, l'association propose 2 temps d'accueil collectif par mois pour les personnes intéressées. Chaque mois, les accordeurs peuvent aussi se réunir lors de dîners participatifs appelés les accordineries. Car la mission principale de l'accorderie reste la création de liens sociaux et la lutte contre l'exclusion. Bernard Hervé, président de l'association sur Canéjan, Pays des Graves, nous le rappelle. Ici, notre priorité, c'est la mixité sociale. L'échange de services n'est qu'un outil parmi d'autres. L'accorderie, c'est 33 associations dans toute la France, un réseau qui s'agrandit depuis 2011 et qui a de beaux jours devant lui. Besoin d'un coup de main? Foncez vous inscrire à l'accorderie de Canéjan.
Espace Mosaïque, 32 chemin des Peyrères, P-E-Y-R-E, accent grave R-E-S, à Canéjan. Téléphone 09 83 09 56 87, canéjan@accorderie.fr, www.accorderie.fr/canéjan/10 juillet.
Les élus du conseil départemental votent une aide pour soutenir les ménages à faibles ressources en recherche de logement. Le département finance ainsi 16 logements bénéficiant du prêt locatif aide d'intégration, PLAI, sur la commune de Gradignan, à hauteur de 33 000 euros.
Sud Gironde, quand le paysage enchante le quotidien. Avec 20 000 nouveaux habitants par an, la Gironde est décidément un département attractif. Pour accompagner de manière qualitative l'évolution du cadre de vie, le prix départemental du paysage récompense les projets exemplaires des communes et de leurs groupements. Le village de Casalis fait partie des lauréats 2017.
Quand on compare les photos avant et après le réaménagement, les différences ne sont pas spectaculaires. Pourtant, Casalis a de quoi être fier. Ce petit village de 242 habitants a su réinventer avec sensibilité son centre-bourg. Il a retrouvé au passage son identité d'Érial, typique des Landes girondines. Loin des effets de mode, l'architecte paysagiste Sébastien Ricois et l'architecte Christine Klingebiel ont souhaité améliorer le cadre de vie. Le paysagiste a élargi le champ de vision sur l'église, sécurisé le chemin des écoliers par une haie, délimité les places de stationnement, utilisé des revêtements laissant s'écouler les eaux et planté des chênes, caractéristiques de l'Érial. Le résultat? Un espace public réorganisé et bien pensé qui s'inscrit dans l'histoire locale, le respect de l'environnement et qui facilite les usages des habitants. Zoom sur le prix départemental du paysage. C'est ce travail qui a été récompensé le 24 septembre par le prix départemental du paysage. Une récompense qui remplace le concours Ville et Village Fleuri et vise à mettre en lumière les projets exemplaires portés par les collectivités et prenant en compte les atouts du territoire, les ressources naturelles et les spécificités paysagères locales. La Gironde accueille aujourd'hui 20 000 habitants de plus par an. Une forte attractivité qui nécessite de créer de nouvelles infrastructures et d'accompagner au plus près les évolutions.
Les communes lauréates en 2017. Cette année, les communes de Cartelègue, Lormont et Casalis ont reçu le prix départemental du paysage. Un quatrième prix, coup de cœur, a été également remis conjointement aux communes de Quinsac, Camblane et Ménac et Saint-Caprais de Bordeaux pour la manifestation Point de vue.
Flash, 6 septembre. Le président du conseil départemental signe la convention d'aménagement d'école avec la commune de Toulaine. Un contrat qui lui permet d'accompagner un programme de travaux de création ou de rénovation, entre autres, de 3 salles de classe, d'un préau ou encore du restaurant scolaire et de la cour. Une aide de 194 800 euros a été votée.
Porte du Médoc. CLIC, CLIC, un centre d'information pour les seniors, mais pas que. Des questions sur le handicap, les personnes âgées, la perte d'autonomie, vos droits, vos prestations, vos démarches. Les équipes de la plateforme Accueil Autonomie vous répondent et vous orientent par téléphone. Sur le site de Mérignac, Ce lieu ressource répond pleinement à l'objectif d'une proximité renforcée.
À qui s'adresse le CLIC ? Lieu d'accueil de proximité, le CLIC, porte du Médoc, centre local d'information et de coordination gérontologique, répond aux attentes des seniors et de leur entourage sur près de 12 communes. Ce vaste territoire en zone urbaine, périurbaine, voire périrurale, explique sa directrice, Valérie Bassi, a conduit le CLIC à tenir également une permanence à Mâcon. Depuis novembre 2016, le site de Mérignac dispose aussi d'un accueil physique pour les personnes en situation de handicap. Services gratuits, financés par le département, les caisses de retraite et les collectivités territoriales. Le CLIC intervient selon une triple logique. Proximité, accès facilité aux droits et mise en réseau entre les professionnels. Quelles sont ces actions ? Elles peuvent aller d'une information à une évaluation globale des besoins en passant par la coordination des intervenants, l'aide aux démarches et le suivi. Georgette D., 77 ans, habitant le Taillant-Médoc, témoigne. « Mon mari est en EHPAD et je suis seul à gérer le quotidien. J'ai mis en vente un terrain et je me suis tourné vers le CLIC pour un accompagnement administratif. » J'entretiens une relation de confiance avec ma coordinatrice et son regard extérieur m'aide à avancer quand je dois faire face aux difficultés. Ce lieu, ressource, prend en compte tous les aspects du quotidien, soins, qualité et confort de la vie à domicile, mais aussi vie sociale, culturelle et citoyenne. Le CLIC assure également des rencontres et des actions collectives de prévention, en lien avec diverses structures, adaptation de l'habitat, atelier mémoire, groupe de parole pour les aidants. Il y a 6 ans, Georgette D. participait à un atelier du bien vieillir. Avec mes amis, nous avions appris plein de choses sur la santé, l'alimentation, le sommeil, les activités physiques. Un atelier généraliste, aujourd'hui gratuit, afin d'aider les personnes âgées à réfléchir sur leur autonomie et à garder leur mobilité. En attendant de contacter le CLIC, n'oubliez pas de réunir toutes les questions pour trouver les bonnes réponses et vous donner les moyens de bien vieillir à domicile.
CLIC, porte du Médoc, 419 avenue de Verdun, 33 700 Mérignac, téléphone 05 56 95 80 11, du lundi au mercredi, 9h 12h30 et 13h30 17h, jeudi 13h30 17h, vendredi 9h 12h30 et 13h30 16h, communes adhérentes Mérignac, le Taillant-Médoc, le Haillan, Martignas-sur-Jalles, Mâcon, Blanquefort, Parampuire, Saint-Médard-en-Jalles, Bruges, Le Bouscat, Saint-Aubin-du-Médoc et Eysines.
En chiffres, 991 dossiers suivis en 2016 par le CLIC Porte du Médoc, 2307 demandes examinées. Flash, 10 juillet, le logement est l'objet d'aides importantes votées par le Conseil départemental. C'est le cas au Haillan pour 10 logements bénéficiant du prêt locatif aidé d'intégration, PLAI, avec 30 000 euros. Le foyer des jeunes travailleurs de Mérignac, agissant en faveur de l'hébergement des jeunes, bénéficie aussi d'une aide de 78 800 euros.
Force solidaire, autonomie, accueillants familiaux, ils ouvrent leurs portes. L'accueil familial offre une alternative aux personnes âgées ou adultes handicapés. Ce métier gratifiant et solidaire est une solution originale fortement encouragée par le département.
Le lac de Carcan vit au rythme de ses eaux paisibles. À quelques pas de là, la maison de Catherine Laforgue dégage la même quiétude. Originaire du Médoc, cette jeune sexagénaire, ancienne commerçante, a beaucoup bourlingué dans les pas de son mari gendarme avant de revenir s'établir ici et d'ouvrir sa porte à Geneviève, 57 ans, présentant un handicap psychique. Pour moi, c'était une forme de liberté de pouvoir rester à la maison. C'est une responsabilité. On veille à sa sécurité. Mon travail, c'est qu'elle se sente bien et qu'elle ait aussi sa vie, commente Catherine. Le temps de s'apprivoiser. Un accueillant agréé reçoit chez lui 1 à 3 personnes moyennant une rémunération.
Il assure l'hébergement et la restauration ainsi que l'entretien de l'espace et des effets personnels. Cette politique d'aide est une alternative aux maisons de retraite et autres foyers. Elle suppose une vie commune dans laquelle l'intimité de chacun est néanmoins respectée. Les personnes possèdent leur espace, une chambre individuelle aménagée à leur convenance. Pour le reste, tous circulent librement dans la maison. Le couple a accueilli Geneviève il y a 2 ans. Ils ont pris le temps de se connaître. Il faut savoir s'adapter à la personne, pointe Catherine Laforgue. Ça demande d'être patient tout en sachant poser des cadres pour que chacun puisse profiter de temps à soi. Rapidement, Geneviève a pris plaisir à promener Java, la petite chienne de la famille. Elle a gagné en assurance. Elle qui n'osait pas traverser la route profite désormais seule de la plage et participe régulièrement à des ateliers de peinture sur porcelaine auxquels Catherine Laforgue l'a inscrit. Une équipe soudée. À la fois présence aidante et stimulante, l'accueillant assure un accompagnement personnalisé. C'est aussi un mode d'accueil qui favorise l'échange et permet de s'enrichir mutuellement, affirme Chantal Durand. Après son divorce, cette aide-soignante de 53 ans a obtenu l'agrément pour s'occuper chez elle de 3 personnes âgées et apprécie l'aspect humain du métier. Pleine d'entrain, elle leur offre un quotidien chaleureux, connaît les goûts de chacun et les régale de ses talents de cuisinière. Autour de Chantal, toute une équipe fait bloc pour préserver l'autonomie et le bien-être des pensionnaires. Infirmières, pharmaciens, kinés, pédicures se relayent dans la maison. C'est rassurant et sécurisant de travailler avec les professionnels de santé. C'est un regard extérieur nécessaire, ponctue l'accueillant. Avant d'offrir leur disponibilité et une présence continue, les accueillants familiaux organisent une rencontre préalable avec la personne qui souhaite emménager chez eux. Un mois d'essai est prévu pour vérifier que la cohabitation peut fonctionner. C'est comme un vieil arbre au con des racines, souligne avec tendresse Chantal Durand. Il faut les dorloter. Moi, je suis celle qui prend soin d'eux et à qui ils peuvent se confier.
En chiffres, 158 accueils familiaux agréés pour les personnes âgées, 37 accueillants familiaux pour personnes en situation de handicap. 56 ans, moyenne d'âge des accueillants, vivant la plupart du temps en couple. Certains ont encore des enfants à domicile. 400 personnes vivent actuellement chez des accueillants familiaux. Entre 60 et 65 euros, prix moyen de la journée auquel s'ajoute le loyer de la chambre, dont le montant varie, mais qui est contrôlé par le conseil départemental afin d'éviter les abus.
Devenir accueillant familial, mode d'emploi. Demandez l'agrément au bureau des accueils familiaux et collectifs du département par écrit ou par courriel. Disposez d'une chambre de 10 mètres carrés minimum à mettre à disposition ainsi que des sanitaires adaptés. Constituez un dossier de conditions matérielles d'accueil. Se rendre disponible pour une évaluation par un travailleur social et une évaluation par un psychologue. Suivre une formation avant le premier accueil. Par la suite, des sessions complémentaires ainsi que des réunions de secteur auront lieu régulièrement. L'accueillant bénéficie de l'accompagnement des professionnels du département. 4 mois sont nécessaires pour l'instruction du dossier. Vous êtes ensuite rémunéré directement par la personne accueillie dans le cadre d'un contrat de gré à gré.
Bureau des accueillants familiaux et collectifs, téléphone 05 56 99 31 87. dgas-psa-daps-saams-bafc@gironde.fr. Des réunions d'information sont organisées. gironde.fr/accueil-familial.
L'engagement du département. Les accueillants familiaux ont reçu un agrément du conseil départemental. Cet agrément est valable 5 ans. Il précise le nombre de personnes que l'accueillant peut recevoir, pas plus de 3 en même temps, et qui dépendra de la configuration de votre domicile et de votre projet. Le département organise la formation et le contrôle des accueillants, ainsi que le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Elles peuvent bénéficier de l'APA à domicile, des aides au logement, de l'ASH, l'aide sociale à l'hébergement.
Point de vue d'Edith Moncoucut, vice-présidente, chargée de l'autonomie, du handicap et de la politique de l'âge.
L'accueil familial est une alternative très intéressante et forte pour les accueillants comme pour les personnes âgées ou handicapées. Ce mode d'accueil rencontre un réel succès, mais nous devons la faire connaître davantage. Elle reflète exactement l'objectif que nous poursuivons au département, c'est-à-dire contribuer à donner du sens à l'intergénération et à la solidarité humaine. Quelle belle expérience de partage, d'échange et de transmission.
Patrimoine, domaine de Certes et Graveyron, terre d'utopie. C'est désormais la porte d'entrée de tous les espaces naturels sensibles de la Gironde. Inauguré entre le 7 et le 15 octobre, le domaine de Certes et Graveyron à Audenge accueille dans ses bâtiments un pôle scientifique dédié à la biodiversité et propose un instantané de paysages anciens du bassin.
Balade dans les roselières. C'est un havre de nature qui vit au rythme des marées et des migrations d'oiseaux sauvages. Quadrillé par les longs bassins endigués du XVIIIe et au XIXe siècle, le domaine de Certes et Graveyron offre un refuge à la faune et à la flore du littoral et plonge le visiteur au cœur des contrastes des paysages du bassin. L'ambiance y est singulière. Avant la promenade, assis sur les meules de foin roulées sur les berges, on se laisse surprendre par le cri des mouettes, le vol des hérons cendrés, celui des échasses blanches. On regarde, songeur, les familles de cygnes qui sillonnent les méandres des cours d'eau. Le vaste domaine de 530 hectares appartient au Conservatoire du Littoral, mais sa gestion revient au département. Après plus de 10 ans de travaux et de rénovation des digues, du réseau hydraulique et des bâtisses agricoles, le domaine est inauguré la semaine du 7 au 15 octobre. C'est l'occasion de découvrir les lieux, mais aussi les activités agricoles et scientifiques à travers les événements, des balades naturalistes, des dégustations, des conférences et des expositions. À cet égard, le spectacle son et images du château est à ne pas manquer les 7 et 8 octobre à partir de 18h30. Tout le programme sur gironde.fr/domaine-de-certes en un seul mot. Un pôle dédié à la biodiversité. Si le domaine de Certes et Graveyron est un espace naturel sensible, protégé, il n'en est pas moins un lieu de vie qui accueille des activités de pêche et d'élevage, mais aussi les travaux de scientifiques. Les bâtiments agricoles abritent désormais un vaste pôle dédié à la biodiversité. La Ligue de protection des oiseaux y a installé un centre de soins de la faune sauvage. Le Conservatoire botanique national Sud-Atlantique y étudie les espèces végétales et le Centre de conservation et d'études archéologiques de la DRAC y stocke les collections archéologiques du territoire et du littoral aquitain. Enfin, le syndicat mixte des ports départementaux est au rang des habitants des lieux.
En chiffres, le projet de valorisation du domaine a nécessité un budget de 15 millions d'euros financé par le département et à près de 30% par des fonds de l'Europe, de l'État, de la région Aquitaine et du Conservatoire du Littoral. Un financement rendu possible grâce à la taxe d'aménagement. Le domaine de Certes et Graveyron est un refuge pour 336 espèces végétales, 42 espèces de mammifères, 253 espèces d'oiseaux, 11 espèces de reptiles et amphibiens, 400 espèces d'insectes identifiées.
Des balades à la carte. Cet espace de travail se veut collaboratif et ouvert au public. L'accueil est d'ailleurs ouvert 7 jours sur 7. Ici, on vient se balader librement en famille ou on se programme une promenade au crépuscule. Si les guides naturalistes du département accompagnent les sorties, ils mettent aussi le public en relation avec les nombreuses associations et les structures dédiées à l'éducation à l'environnement, mais aussi les artistes qui s'emparent des lieux. Conteurs, acteurs ou acrobates offrent là des déambulations poétiques. À travers ces animations, l'objectif du département est bien de sensibiliser encore et toujours à l'environnement et à faire connaître les espaces naturels sensibles. Les découvertes sont adaptées à toutes les tranches d'âge et tous les publics. Personnes âgées, en situation de handicap, établissements spécialisés, groupes scolaires. En outre, face à la forte fréquentation du site, le Conservatoire du Littoral a décidé de faire respecter l'usage limité aux seuls piétons. Des actions pédagogiques et de communication accompagnent cette réglementation de sécurité incontournable. Au fil des siècles, et la balade est magique. Si Graviron offre un instantané des paysages agricoles du bassin tels qu'ils étaient il y a encore 150 ans, certes, montre l'activité de saliculture au XVIIIe et de pisciculture au XIXe siècle. Et c'est bien là que réside le magnifique paradoxe de cet espace naturel, en réalité forgé par l'homme au fil des siècles, à des fins d'exploitation agricole, comme piscicole, et aujourd'hui maintenu en l'état pour accueillir une biodiversité la plus riche possible. Le lieu, jalonné d'une trentaine d'écluses, bénéficie d'une mosaïque de milieux aquatiques différents. Le visiteur, lui, navigue sur cette vaste dentelle posée entre ciel et mer, et éprouve ce sentiment de paix indéfinissable d'être seul avec les oiseaux au cœur même du bassin d'Arcachon. Le domaine est accessible uniquement aux piétons, deux circuits possibles. Circuit de Certes, 9,3 km au départ de l'accueil jusqu'au bassin de baignade de Lenton, durée moyenne 3h30. Boucle de Graviron, 6 km au départ de l'accueil, durée moyenne 2 heures. Balade libre, balade nature accompagnée, gratuite et à la carte, tout au long de l'année. Téléphone 05 56 82 71 79. Site internet www.gironde.fr/domaine-de-certes en un seul mot.
Point de vue de Jean Touzeau, vice-président chargé de la valorisation du patrimoine départemental et touristique.
Les travaux qui ont été réalisés ici sur ce domaine de Certes et Graviron donnent un très beau résultat et ce sont les visiteurs qui en jugeront. Nous avons bien eu l'objectif de valoriser l'accueil sur ce site d'exception en offrant au public des infrastructures adaptées à la découverte de cet extraordinaire patrimoine naturel. Promenez-vous en toute liberté, vous verrez, c'est magique.
Société, collège au pluriel, bon plan pour le futur. Le plan Collège Ambition 2024 a été adopté par l'Assemblée départementale à la quasi-unanimité mi-septembre. 12 nouveaux collèges doivent voir le jour d'ici 2024, 470 millions d'euros, incluant aussi 10 réhabilitations, seront investis pour atteindre cet objectif. Un projet qui a motivé la tenue d'une table ronde le 7 septembre, réunissant autour du président Jean-Luc Glaize des acteurs clés liés à l'avenir des collèges. Un principal, un élu local, une présidente d'association de parents d'élèves et le directeur d'une structure de loisirs ouverte aux jeunes.
Ce sont désormais 20 000 nouveaux habitants qui s'installent chaque année en Gironde, soit l'équivalent de la population d'une ville moyenne comme Libourne ou Lormont. Parmi ces néo-girondins figurent 850 collégiens qu'il faut là aussi accueillir dans les meilleures conditions. Plutôt que de gérer l'urgence, le président du conseil départemental, Jean-Luc Glaize, a choisi d'anticiper en faisant voter par l'Assemblée élue le 11 septembre dernier le plan Collège Ambition 2024. Il s'agit de prévoir la construction de 12 nouveaux établissements d'ici à 8 ans. D'ores et déjà, les 105 collèges publics reçoivent depuis la dernière rentrée près de 61 000 collégiens. Le département, qui a, au rang de ses toutes premières responsabilités, la construction, l'aménagement et la modernisation des collèges, a donc mis en œuvre une stratégie de développement et de construction, répondant à l'essor démographique attendu. Une implantation à taille humaine. Les 12 nouveaux établissements auxquels viendront s'ajouter 10 réhabilitations en profondeur vont mobiliser une enveloppe de 470 millions d'euros. Faut-il rappeler que les finances du département restent contraintes, victimes de la baisse constante des dotations de l'État et de la hausse de ses dépenses sociales. Dans ce contexte, la localisation doit répondre clairement aux besoins des territoires et à une démographie dynamique. Un choix délicat, car il repose évidemment sur les capacités des élus et des équipes du département à savoir anticiper l'avenir. Pas de science exacte, donc. Objectif clé du plan Collège 2024, concevoir des établissements à taille humaine en revoyant à la baisse le nombre moyen des collégiens accueillis sur chaque nouveau site. Ainsi, ils sont destinés à recevoir, dans la majorité d'entre eux, 600 élèves, avec la possibilité d'un agrandissement contenu pour faire passer, si nécessaire, la jauge à 700 collégiens. Les nouveaux collèges doivent plus que jamais devenir des lieux ouverts sur la cité, la vie associative et citoyenne. Ils peuvent contribuer au développement des territoires où ils s'implanteront.
4 à Bordeaux, quartier Euratlantique, un secteur Gâteaubourse, rive gauche, un secteur Deschamps, rive droite, un à Bordeaux-Bastide et un dans l'éco-quartier Ginko. Un en Créonnet, un au Barpe, un au Hayan, un au Puy-en-Médoc, un à Marsas, un à Mérignac, un sur le secteur de Montussan et un à Saint-Selve.
Un collège, un territoire, des projets. Vaste sujet qu'avait choisi d'aborder le président Jean-Luc Glaize lors de la table ronde du mardi 7 septembre dernier et qui a permis effectivement de mesurer l'influence d'un collège sur la vie d'un territoire. Plus largement, elle a aussi été l'occasion pour les différents interlocuteurs de revenir sur l'implantation des nouveaux collèges, sur les contraintes et les objectifs du plan porté par le département. Un point aura mis d'accord tous les débatteurs. Œuvrer à l'avenir des enfants, richesse de la Gironde, exige un savant mélange de réflexion, d'action et d'expérimentation.
Du projet à la réalité, témoignage. Loïc Guibon, principal du collège Val de Seille à Saint-Isan-de-Soudiac.
La réussite des enfants est intimement liée à l'établissement et au cadre de vie qu'il propose. Construire des collèges plus petits est effectivement une bonne idée, car cela reste une des conditions de réussite pour les enfants en leur permettant une intégration optimale.
Cédric Pain, maire de Mios.
Nous l'avons constaté à Mios. La naissance d'un collège repose sur la plus large concertation possible. Néanmoins, le temps nécessaire aux différentes procédures, du début du projet à sa concrétisation, a tout à fait été raisonnable pour la construction du collège de Mios.
Stéphanie Enfray, présidente de la Confédération des parents d'élèves de la Gironde, FCPE 33.
La question de l'implantation des collèges peut être problématique. Certaines communes et les parents peuvent se demander pourquoi là-bas plutôt qu'ici. La démographie et son évolution, même si c'est une réponse, n'est pas toujours comprise.
Pierre Chinzi, directeur de l'association Loisirs Jeunes en Créonnet.
L'ouverture d'un collège, cela permet, comme à Créon, de se poser de nombreuses questions essentielles pour la vie locale, celles liées à la voirie, aux mobilités, mais aussi à l'essor des structures sportives. Le temps du projet ne doit pas être dissocié de tous ces questionnements.
Jean-Luc Glaize, président du conseil départemental.
Pour déterminer le lieu d'implantation d'un collège, nous prenons en compte une vision globale du territoire girondin. Nous tenons compte des évolutions démographiques. Nous devons offrir les meilleures conditions d'épanouissement aux collégiens. Nous devons faire en sorte que la carte scolaire soit respectée et que les dérogations ne se multiplient pas. La qualité d'un collège à taille humaine tient aussi à sa capacité à accueillir tous les enfants du secteur qui doivent y être scolarisés.
L'éducation, c'est aussi l'alimentation, les espaces sanitaires, le cadre de vie. Objectif : respecter la carte scolaire. Réussite des enfants, faciliter la mixité, un bon cadre de vie, gérer la mobilité et les conditions d'accès.
La vie au collège. Stéphanie Enfray.
La difficulté pour que la vie s'organise bien à l'intérieur d'un collège, c'est de trouver un bon équilibre. À la stabilité des équipes enseignantes s'oppose quelquefois la mobilité des équipes administratives. Cela peut poser problème pour la continuité des projets de l'établissement.
Pierre Chinzi.
L'ouverture des collèges sur la cité, sur la vie associative, avec des équipements sportifs partagés, a changé l'image que l'on pouvait se faire de ces établissements. Ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais chacun, dans le collège et à l'extérieur, y gagne.
Loïc Guibon.
Travailler au bien-vivre des enfants au collège c'est à la fois lutter contre certaines habitudes culturelles. C'est savoir s'adapter aux nouveaux usages, s'ouvrir, mais sans jamais oublier que notre mission première, c'est l'éducation des enfants dans les meilleures conditions.
Cédric Pain.
Pour nous, maires et élus locaux, la vie au collège est liée à nos politiques d'aménagement du territoire. C'est une véritable opportunité pour repenser notre commune et nos habitudes de circulation. Favoriser l'usage du vélo pour se rendre au collège tout en veillant à la sécurité des enfants. Cela a indiscutablement une influence sur la vie quotidienne des collégiens, mais également pour l'ensemble des habitants.
Jean-Luc Glaise.
Le chef d'établissement, les équipes pédagogiques, administratives et techniques connaissent parfaitement leur mission. Au département, notre rôle, c'est de leur donner les meilleures conditions pour les exercer. Je pense au cadre de vie des établissements, aux outils informatiques en passant par les sanitaires, mais aussi aux messages que nous pouvons faire passer ensemble sur la restauration, l'alimentation ou encore la citoyenneté. C'est un engagement passionnant.
Au cœur de la vie locale, Loïc Guibon.
Le collège s'inscrit de plus en plus dans les projets de la vie locale. Cela participe du bien-être des enfants, même si naturellement, ce qui reste fondamental, c'est le quotidien et la pédagogie au sein de l'établissement.
Stéphanie Enfray.
Ce qu'apportent les collèges est essentiel. La participation des parents d'élèves est aussi fondamentale, au-delà des questions qui les préoccupent au cas par cas. Nous devons les entendre sur des thèmes qui nous mobilisent à la FCPE, tels que l'égalité filles-garçons, la lutte contre le harcèlement ou encore la laïcité.
Cédric Pain.
Incontestablement, le collège a fait évoluer profondément la commune de Mios, y compris dans la perception qu'en ont ses habitants. Sur la manière de se déplacer, je le disais, en favorisant le vélo en particulier. Au-delà, les liens qu'ont tissé le comité des fêtes, les associations et les commerçants avec le collège en font un lieu central au cœur de la vie locale.
Pierre Chinzi.
Notre association à Créon peut en témoigner. L'apport du collège est essentiel à la vie locale et associative. Nous avons souvent des réponses communes entre collège et association aux problèmes que peut rencontrer notre société dans son ensemble. Nous avons amené en particulier un travail de prévention et de sensibilisation citoyenne qui rapproche aussi le collège de la commune.
Jean-Luc Glaise.
En implantant les nouveaux collèges, notre préoccupation est d'en faire des lieux centraux et ouverts sur des territoires où ils ont un rôle fondamental à jouer, que ce soit en milieu urbain ou en Gironde rurale. Il ne faut pas éluder la question des moyens alloués aux missions complémentaires à la pédagogie qui sont cruciales. Je citerai les salles de sport qui doivent être ouvertes le plus possible aux associations locales.
Aujourd'hui, 2024. En conclusion de la table ronde, il a été demandé aux débatteurs de se projeter dans la Gironde de 2024 et d'en faire le portrait rapide à travers la situation des collèges. Loïc Guibon.
En 2024, nous avons encore beaucoup de projets. Il se construit alors un collège par an.
Pierre Chinzi.
Nous sommes à l'ère du collaboratif. Les enfants sont encore plus force de proposition. Des partenariats enthousiasmants se mettent en place.
Cédric Pain.
Encore plus de vivre ensemble. L'aménagement du territoire est plus que jamais le support de ce vivre ensemble. Les pistes cyclables se sont multipliées et nous agrandissons le collège de Mios.
Stéphanie Enfray.
Partout, le dialogue s'est étendu. Il touche avec efficacité tous les acteurs impliqués sur la question éducative. La réussite des élèves est tangible grâce à ce dialogue.
Jean-Luc Glaise.
La croissance économique a repris. Il y a davantage de besoins et nous lançons un nouveau plan collège.
Flash.
Quelques chiffres. 120 millions d'euros pour les collèges, 109 euros par an et par élève pour l'équipement numérique, 470 millions d'euros pour le plan collège 2024, construction et réhabilitation, 800 projets de collèges soutenus, 105 collèges publics, 20 000 habitants par an de plus en Gironde, 12 collèges supplémentaires d'ici 7 ans, 850 collégiens de plus par an, site internet www.gironde.fr/collège au pluriel.
Société. contrat aidé, une suppression à haut risque. Rentrer sous le signe de l'incertitude pour des milliers de personnes concernées par un emploi aidé, salarié comme employeur. À l'heure où la relance économique reste fragile, la décision du gouvernement de supprimer ce type de contrat pose question. En Gironde, des écoles aux associations en passant par les PME-PMI, les collèges ou encore les maisons de retraite, la nouvelle est très commentée.
Des réalités incontournables. Le contrat aidé ou emploi aidé est par définition un contrat de travail pour lequel l'employeur reçoit une aide financière afin de réduire le coût de l'embauche d'un salarié. Il en existe de deux types. Le contrat d'accompagnement dans l'emploi, CAECUI, qui concerne le secteur non marchand, associations, collèges, écoles, et le contrat initiative emploi, CUICIE, qui s'adresse aux entreprises privées. Ces emplois reçoivent donc un soutien financier de l'État, mais aussi celui des départements dans le cadre de leur politique d'insertion. À la fin du mois d'août dernier, l'État a décidé de mettre fin à sa participation au processus. Pourtant, la participation financière de l'État reste modique dans ce dispositif. Quant au département, la somme qu'il injecte dans l'emploi aidé est équivalente à celle qui aurait été destinée à la personne dans le cadre du RSA. À titre d'exemple, dans le cadre d'un CIE sur un salaire brut de 1 479 € payés aux salariés, 947 € relèvent de la part employeur, 480 € du département et 52 € de l'État. Gagnant-gagnant donc, car force est de constater que toutes ces dernières années, de nombreux salariés qui ont bénéficié de ce processus d'insertion ont pu réintégrer le circuit de l'emploi pérenne. Le département directement touché. L'État, Pôle emploi et le département signent une convention annuelle d'objectifs et de moyens qui définit pour l'année en cours les modalités de fonctionnement des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle. Le contrat unique d'insertion s'y inscrit. En 2016, plus de 1 000 personnes allocataires du RSA ont pu bénéficier des mesures liant les trois institutions, permettant un retour à l'emploi direct et, pour une majorité des personnes concernées, une sortie du dispositif du RSA. Cette année, le département a choisi de poursuivre son engagement en cofinançant l'ensemble des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle. Précisons que 60% des personnes ayant réalisé un contrat aidé sous l'égide du département sur l'année de référence 2014 étaient toujours en emploi un an plus tard et sont donc bien sorties du RSA. La collectivité départementale emploie directement 230 personnes dans le cadre des emplois aidés, dont 201 au sein des collèges girondins. Entretien, restauration, espaces verts, accueil, ces salariés participent pleinement à la vie quotidienne des établissements. Lors de la séance plénière du 11 septembre dernier, tous les conseillers départementaux, majorité et opposition, exception faite d'une voix, ont d'ailleurs voté une motion pour marquer leur désapprobation face à la suppression annoncée des emplois aidés. Aquitaine de chevaux services. Aquitaine de chevaux services à Cadojac est spécialisée dans les pièces détachées destinées aux Citroën de chevaux. Pour le patron, David Versigny, impossible d'embaucher quelqu'un pour s'occuper du magasin, faute de moyens suffisants. Sabine Blériot est, elle aussi, fan de deux chevaux. Au RSA, c'est la maison départementale de l'insertion de Pauillac dont elle dépend qui lui permet d'entrer dans le dispositif CUI-CIE. Son nouveau patron est ravi, sa jeune PME peut la recruter. L'administratif, c'est galère, mais une fois les choses en place, on mesure que grâce à cette aide, on peut pérenniser un emploi aussi nécessaire. Même satisfaction pour Sabine, c'est un bonheur de travailler en s'appuyant sur une passion. Aujourd'hui, embauchée en CDI, elle ne comprend pas que ce type de dispositif soit supprimé. C'est vraiment une opportunité de revenir vers l'emploi. Comment faire autrement quand on veut travailler dans une petite entreprise comme la nôtre? L'œil, la lucarne. Passionné, Jean-Pierre Terracol l'est aussi. Après des années d'engagement bénévole au service de la culture populaire, il prend la direction du théâtre bordelais L'œil, la lucarne, rue Bessac. Après de lourds travaux, le lieu amorce une nouvelle saison sur les chapeaux de roue. Cependant, le monde associatif et culturel est très angoissé.
Notre structure est vraiment mise en péril par ce genre de choix. Les emplois de type aidé ont sauvé beaucoup de gens et permis de les remettre dans l'emploi alors qu'ils étaient éloignés du marché du travail. Les supprimer, c'est accepter l'arrêt de mort des initiatives culturelles populaires, s'exclame Jean-Pierre Terracole. 3 salariés l'entourent, un régisseur son et lumière, une chargée de l'accueil et de la communication, et un 3e contrat aidé venu renforcer l'équipe. Il ne faut pas casser ce qui est bien. Rien ne nous garantit de pouvoir pérenniser notre saison ni l'activité de nos salariés. La cabane à projet. L'association Solidarité en Créonnais voit le jour en 1999. Elle reçoit un agrément au centre social en 2009. Rebaptisée la cabane à projet, la structure associative poursuit un travail de terrain reconnu et le centre social porte le projet d'une épicerie solidaire qui touche aujourd'hui 230 foyers sur le territoire du Créonnais. Les clients sont à la fois les personnes envoyées par les travailleurs sociaux, mais aussi tout habitant qui le souhaite, en un lieu où la mixité de la clientèle est un signe de la réussite de la démarche. À la cabane, une salariée en emploi aidé s'occupe de l'accueil. Sandra Olivo, directrice du centre social et de l'épicerie, explique. 107 salariés, dont 80% du temps de travail, sont occupés par l'épicerie. Et uniquement avec les bénévoles de l'association, nous ne saurions pas assurer le fonctionnement de l'épicerie. La suppression des contrats aidés? Nous pourrions être contraints de cesser tout simplement notre activité.
Point de vue de Denise Grélard-Nédélec, vice-présidente chargée de l'insertion.
Décider la fin des emplois aidés, c'est refaire basculer dans la précarité et bien souvent au RSA des milliers de personnes. Les contrats aidés permettent à des personnes éloignées de l'emploi de se remettre en mouvement, de retrouver leur place dans la société. C'est l'impulsion décisive pour ensuite accéder à un emploi durable. Plus largement, ce choix gouvernemental est aussi dangereux pour la cohésion sociale que pour la continuité du service public. Nous le constatons chaque jour dans nos collectivités, dans les associations et dans les très petites entreprises.
Flash.
Quelques précisions. Contrat d'accompagnement dans l'emploi, CAE-CUI. Durée de prise en charge du département, 18 mois maximum. Temps de travail minimum, 20 heures hebdomadaires. Prise en charge, 85% du taux horaire. 550 CAE-CUI prévus en 2017. Contrat initiative emploi, CUI-CIE. Durée de prise en charge du département, 6 mois maximum. Temps de travail minimum, 30 heures hebdomadaires. Prise en charge, 36% du taux horaire. 100 CUI-CIE prévus en 2017. Aides au poste d'insertion, CDDI. Durée de prise en charge du département, 4 à 24 mois maximum. Temps de travail minimum, 26 heures hebdomadaires. Prise en charge, aide versée à hauteur de 88% du montant forfaitaire du RSA. 400 CDDI prévus en 2017.
Enfance, Mame Deschamps. Depuis 2010, les assistantes maternelles agréées ou assistants maternels agréés peuvent se regrouper. Elles ou ils travaillent alors dans des locaux appelés maisons d'assistantes maternelles ou maisons d'assistants maternels, MAM, un mode de garde où le parent reste l'employeur et qui vient compléter l'offre d'accueil des jeunes enfants. Rencontre à Saint-Selve et à Bruges.
À Saint-Selve, entre forêt et vignoble. 10h30, Corinne Capas et Manon Picotin, accueil Gabin, dernière arrivée des 5 enfants présents à la MAM, Fleur d'éveil 2, en cette période de grandes vacances. Lucas, absorbé par l'élaboration d'un plat imaginaire, lève à peine les yeux, alors que Madeleine esquisse quelques pas de danse sur fond de pirouette-cacahuète. Elle, c'est la future reine du dance floor, s'accordent à dire les deux assistantes maternelles. Elles ont ouvert leur MAM début 2017, après avoir obtenu chacune l'agrément délivré par le président du conseil départemental et présenté un projet d'accueil soumis aux professionnels de la PMI, Protection maternelle et infantile, service du département. Leur credo, penser des activités pour les enfants, en laissant la part belle au temps de jeu libre pour qu'ils développent leur imagination. « Nous sommes très complémentaires », explique Manon. « Corinne a auparavant effectué plusieurs emplacements en MAM. Quant à moi, j'ai des expériences en école maternelle et en centre de loisirs.
Flash.
Troisième forum des assistantes et assistants maternels de Gironde, samedi 18 novembre 2017 de 9h à 16h, département de la Gironde, immeuble Gironde à Bordeaux, inscription obligatoire sur gironde.fr/forum-assistant maternel au masculin et au pluriel, et en un seul mot.
En chiffres, 191 mâmes en Gironde, 496 assistantes maternelles y sont regroupées, 1852 places d'accueil, plus 54 mâmes créées entre 2015 et 2016, 285 000 euros consacrés chaque année par le département pour la formation initiale et obligatoire des assistantes maternelles.
Mâme des villes.
S'habituer à la collectivité. Dans cette maison de 80 mètres carrés ouvrant sur un jardin, tout est pensé pour les enfants. Et exercer à deux offre de nombreux avantages. Si l'une veille sur les chambres à l'étage, l'autre s'occupe de l'espace de jeu. Même chose en cas de biberon ou à l'heure du déjeuner. Quand le petit groupe, 7 enfants maximum, n'est pas en balade alentour ou parti saluer les poules du voisin, tous se retrouvent dans le jardin où les attendent balançoires à bascule, cabane et le très prisé toboggan qui est souvent l'occasion de rappeler quelques règles de savoir-vivre et de respect de l'autre. Une maman nous a appelé récemment pour nous laisser son petit 2 matinées par semaine afin qu'il s'habitue à la collectivité avant de rentrer à l'école, raconte Manon. Car l'enjeu, tout comme à la crèche, est bel et bien de familiariser l'enfant à la vie de groupe, mais en gardant un cadre de vie familiale. Corinne précise d'ailleurs qu'à son sens, l'accueil en MAM est particulièrement adapté aux bébés qui ont besoin de beaucoup d'attention et de câlins. Ce qui me touche vraiment dans ce métier, c'est de voir les enfants arriver avec le sourire, poursuit Manon. Et quand ils ne veulent pas repartir le soir, conclut Corinne. À Bruges, en plein centre-ville. Le deuxième jour de l'année 2017, Bruges voyait éclore sa première, et pour l'heure unique, maison d'assistante maternelle. Mamzelle, coccinelle. Cécile Gallet et Sophie Lapérade se sont lancées. Assistante maternelle à domicile depuis bientôt 15 ans, elles souhaitaient poursuivre leur activité dans un cadre différent. Non seulement pour elles, pour travailler autrement et se sentir moins isolées, mais aussi pour les enfants, afin de leur offrir un cadre plus spacieux, qui leur soit dédié à 100%. Le projet a mis 2 ans à se monter, se souvient Sophie. Nous avons longuement échangé afin de nous assurer que nous avions les mêmes idées et de mesurer notre complémentarité. Puis est venu le moment de trouver un local, pas si simple, de développer un projet d'accueil et de le soumettre aux médecins et puéricultrices de la PMI. Travaux manuels. Les parents sont ravis, assure Cécile, et les enfants s'adaptent très bien à cette semi-collectivité. D'ailleurs, quand ils sont en effectif réduit, ils ont tendance à chercher les autres. Signe distinctif de Mamzelle Coccinelle, la pratique régulière de travaux manuels à partir d'objets recyclés. Les pieuvres, poissons et autres animaux marins suspendus dans l'entrée en témoignent. Un genre de 20 milieux sous les mers en version 20 cm sous le plafond. Autre projet en cours, intégrer la langue des signes pour bébés, afin de les aider à mettre leurs besoins et émotions en mots. Une manière d'éviter bien des pleurs et frustrations et de donner l'envie d'aller vers le langage. Installée en plein centre-ville, dans une ancienne ludothèque, la MAM ne dispose pas de jardin. Mais la proximité d'une aire de jeu et du vaste parc Trelon facilite les sorties quotidiennes. Il est d'ailleurs temps de s'y rendre, car le petit Mathias, qui a déjà construit plusieurs édifices et attelages baroques, a besoin d'exprimer sa créativité au grand air. Nous l'y retrouverons en train de rassembler le nécessaire pour allumer un feu, sans flamme, et faire griller des saucisses, en bois. La journée ne fait que commencer.
Point de vue de Martine Jardinet, vice-présidente chargée de l'habitat, logement et développement social.
L'essor des maisons d'assistantes maternelles est important en Gironde. Ce mode d'accueil innovant est plébiscité par de nombreux parents, mais aussi par les assistantes maternelles, car il est bien adapté à la vie quotidienne des enfants. Le département accompagne les projets de création de MAM et en assure le suivi. Son objectif est de permettre aux assistantes maternelles d'avoir tous les moyens d'exercer leur métier à travers une formation efficace. Leur regroupement témoigne de leur volonté de mettre en synergie leurs expériences, leur savoir-faire.
À la découverte, tête de Gironde, les murs ont la parole. Espace de communication rare offert à 4 artistes, le département a passé commande dans le cadre de sa campagne de communication jeunesse pour revisiter les murs de l'immeuble Solidarité à Bordeaux-Mériadec. Dans la tradition du street art, les peintres se sont emparés de thématiques jeunesse traitées avec une touche ludique et poétique. Rassemblés au sein du collectif Transfert, bien ancré dans le tissu bordelais du graffiti, les adeptes de l'aérosol ont investi l'espace public avec des fresques joyeuses et fédératrices. Rencontre.
Guillaume Delfaux, alias Mioter. Une vraie reconnaissance de notre travail.
Issu du monde du graff, Mioter s'est formé au contact des copains à l'adolescence. Depuis 20 ans, il évolue au gré de différentes formes. Toile, corps, objet. Pour cette commande, il a choisi de représenter un livre pop-up, symbole d'éducation, qui en s'ouvrant fait apparaître les éléments tels que le bus, le collège, le stylo ou le curseur d'une souris, et les intègre dans le décor animé. Sa technique de travail mélange bombes, marqueurs et pinceaux. Il privilégie souvent l'utilisation d'icônes enfantines au ton espiègle. Pour nous, c'est génial. J'adore intervenir sur des commandes, il y a une vraie reconnaissance de notre travail, et je trouve ça valorisant. Investi dans diverses associations, il exerce par ailleurs comme formateur hygiène et sécurité.
Lexique. Street art. Art visuel développé dans les espaces publics, dans les rues, sur les murs, à la bombe, au pinceau ou toute autre technique. Graff ou graffiti. Inscription ou dessin sur un mur, souvent satirique ou caricatural, dont l'origine remonte à l'Antiquité. Aérosol. Bombe munie d'une valve qui permet la dispersion de la peinture sur le mur. Livre pop-up. Livre animé avec des mécanismes qui permettent de mettre en mouvement certains éléments sur ces pages. Transmédia. Pratique qui consiste à développer la même histoire ou la même œuvre sur plusieurs médias ou supports. Disquetteur. Une approche acidulée.
Féru de dessin depuis toujours, Disquetteur a travaillé sur le thème de la santé. Sur son mur, il aborde à la fois la prévention des addictions et la santé sexuelle. Artiste indépendant, son univers est très cartoon. On s'adresse au 11-25, il faut donc que ce soit punchy, moderne, avec une touche graffiti tout en restant lisible. J'ai opté pour une approche acidulée qui, à mon avis, correspond à la génération. De la peinture et de l'humour, donc. À 33 ans, cet autodidacte compose ses dessins au crayon, en noir et blanc, avant de coloriser une à une chaque illustration. À Bordeaux, c'est très rare d'avoir d'aussi gros murs sur lesquels peindre. Sur ce projet proposé par le département, c'était très stimulant de s'approprier le thème pour en faire quelque chose qui nous ressemble.
Landry Munoz, alias l'androïde, un confort maximal.
Artiste transmédia, l'androïde s'approprie de multiples procédés de réalisation, mais toujours au service du détournement. Il revisite ainsi les codes et les références avec une vision décalée. Touche à tout aussi doué pour le graffiti que pour la 3D et les maquettes interactives, il a participé à de nombreuses expositions. Formé au design d'objets puis à l'infographie, il a commencé à pratiquer le street art au lycée. J'étais attirée par le fait de peindre sur des grands murs. Il y a un aspect très immersif, très physique, qui n'existe pas en atelier. Pour sa fresque, il a imaginé des sportifs intégrés à des éléments de nature. C'était l'occasion d'avoir un support et de rencontrer d'autres peintres. On a bénéficié d'un confort maximal qui permet de produire une pièce plus soignée que la pratique sauvage.
Jessica Hartley, alias Rouge, l'impression que la ville est à toi.
Jeune franco-allemande, Rouge est diplômée des Beaux-Arts de Bordeaux. Son engagement l'oriente vers une pratique très libre dans la ville où elle explore ses thèmes privilégiés, l'identité, l'exil. Avec la série « Les naufragés », elle représente des personnages les bras chargés d'un tissu ou drapé mystérieux. Dans ce baluchon, chacun projette ce qu'il veut. Ses collages, dessinés au fusain sur papier craft, sont autant de fables poétiques et militantes sur les murs. Travailler dans la rue, c'est vite addictif, t'as l'impression que la ville est à toi, glisse-t-elle. Pour le département, l'artiste a réalisé un dessin sur le thème de la culture. Construit comme une allégorie, il mêle les références, chaussons de danse, sweat à capuche, écouteurs et violons. J'ai voulu suggérer une continuité culturelle avec un jeu d'aller-retour entre des éléments très classiques et un travail assez sombre sur la modernité.
Histoire. Domaine de certes la nature préservée. Rafraîchi, transfiguré, rajeuni, le domaine de certes ouvre cet automne un nouveau chapitre de son histoire, une épopée dont le prélude remonte au XVIIIe siècle. Récit. À 50 kilomètres de Bordeaux, le domaine de Certes et Graveyron apparaît comme un écrin de nature quelque peu coupé du monde et de ses agitations urbaines, où la faune et la flore sont protégées. Ici, un fermier exploite les pâtures avec une centaine de moutons et autant de vaches basadaises. Pourtant, cet état préservé est le fruit d'une histoire riche et le domaine a été marqué par trois hommes visionnaires. Le premier s'appelle Emery François de Dufort, marquis de Sivrac, seigneur de la Motte, Certes et Compriant, baron d'Audange. Il reçoit du roi en 1762 240 000 arpents de terres incultes, veines, vagues, landes et marais. Il les transforme en marais salants et produira jusqu'à 1 000 tonnes de sel par an. Il fait aussi construire en retrait des marais une grande maison de maître où le corps de logis est encadré de 2 pavillons. Les impôts sur le sel vont malheureusement ruiner le marquis. D'Ernest de Boissière au département. En 1843, un personnage hors du commun, Ernest Valeton de Boissière, prend les rênes du domaine, le transforme en l'agrandissant, plus de 2000 hectares, et en y pratiquant la pisciculture, l'agriculture, l'élevage, mais aussi l'exploitation forestière. En outre, il reconstruit un nouveau château dès 1860 sur l'emplacement de l'ancien, plus à la mode et digne du confort de son temps. Après sa mort, en 1894, c'est Jean d'Escasse qui achète le domaine. Il construira les dépendances avant que ses fils Henri et Camille prennent la suite. Camille érigera le belvédère du bâtiment, tout en ajoutant au premier étage des modillons de faïence à ses initiales. Aujourd'hui, après une période incertaine et de longues négociations menées entre 1977 et 1982, l'État a sauvé le site de la convoitise des promoteurs et de leurs rêves de vivarium, marina et autres zoos à hippopotames. Propriété du Conservatoire du Littoral, c'est le département de la Gironde qui gère désormais le domaine agrandi, portant ainsi l'ensemble à 530 hectares. Et c'est la nature préservée qui fait aujourd'hui le sel de ce site poétique.
Certes et Graveyron, terre d'utopie. Exposition sur l'histoire du domaine à découvrir dès le 8 octobre dans le cadre de la semaine inaugurale. Voir page 14-15. Le domaine départemental aujourd'hui. Les dépendances du domaine sont occupées par les équipes techniques du département chargées de la gestion écologique du site et de l'accueil du public, par le Conservatoire botanique national Sud-Atlantique, par un centre de conservation et d'études archéologiques de la DRAC, par un centre de sauvegarde de la Ligue pour la protection des oiseaux.
Patrimoine, l'abbaye de la Sauve Majeure en majesté. Gérard de Corbie, un beau matin de 1079, vient prier dans la petite chapelle au milieu de la grande forêt d'Entre-deux-Mers et décide d'établir là une abbaye. La construction de ce monastère dure 150 ans, puissant durant 2 siècles. Il connaît ensuite le déclin. Reste aujourd'hui le vibrant témoignage de ce rêve d'un abbé bénédictin.
Beau vestige. Le visiteur appréciera, au premier coup d'œil, un fier monument aux piliers qui s'élancent pour ne soutenir désormais que la voûte céleste. Il s'attardera sur ces demi-coupoles aux arches ouvrant sur le vide. Il admirera, sans aucun doute, ces chapiteaux qui montrent des scènes bibliques telles Daniel dans la fosse au lion ou Samson chevauchant un lion. Dans le cœur, deux basiliques monstres, mi-coque, mi-serpent, se battent face à une corbeille de grappes de raisin, de pampres et de feuilles. Aujourd'hui, il ne reste que les ruines de l'église abbatiale et les fondations des autres bâtiments monastiques, mais il donne une idée de l'ensemble. Salle du chapitre, scriptorium, réfectoire, cloître. Précisons que l'abbaye de la Sauve-Majeure est monument national. Elle est également inscrite avec l'église Saint-Pierre au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Belle nature. Du haut du clocher, on admire la campagne environnante, les collines boisées et bleues dans le lointain, mais aussi, en bas, l'activité des hommes. Dans le jardin qui a remplacé le verger, demeurent quelques arbres fruitiers, 2 tilleuls, un chêne vert et 2 bancs qui regardent passer le temps. Le musée de la salle capitulaire, lui, montre une foison de carreaux de pavement aux formes variées, des pierres sculptées ou portant des traces de peinture. Des panneaux très clairs décrivent, avec de grandes illustrations, les livres rares de l'abbaye, conservés à présent dans les fonds patrimoniaux. En face, l'église Saint-Pierre, de la même époque romane, se visite aussi. Faites donc sans hésiter cette balade automnale aux couleurs du Moyen-Âge. N'omettez pas non plus de tenter la randonnée de 7 kilomètres, environ 3 heures à pied, qui vous permettra de découvrir les alentours de cette belle abbaye.
Abbaye de la Sauve-Majeure, 14 rue de l'Abbaye à la Sauve, 05 56 23 01 55. abbaye.sauve-majeure@monumentsaupluriel-nationaux.fr www.abbaye-la-sauve-majeure.fr. Accès depuis Bordeaux, rocade sortie 24, D936 direction Créon. À vélo, la piste cyclable Roger-Lapébie, canal des deux mers, passe à 1 km.
Trésor caché, grotte de père non père, le champ lointain de nos ancêtres. Peu de Girondins connaissent l'existence de la grotte préhistorique de Père-Non-Père près de Blaye. Pourtant, il s'agit de l'une des plus anciennes du monde qui témoigne des premières expressions artistiques de l'humanité. Découverte par François Dalot à la fin du XIXe siècle, cette toute petite cavité porte la voix de nos lointains parents.
Dessine-moi des animaux. À la sortie de Prignac et Marcan, un panneau indique la butte boisée sous laquelle reposent depuis plus de 30 000 ans des gravures d'animaux divers dont un cheval à tête retournée, première captation du mouvement en art. Un trait d'un à 2 centimètres, gravé dans la roche en épousant ses formes et ses failles, dessine le contour d'individus d'espèces disparues ou non, bouquetins, bisons, cervidés, dont un rare mégacéros et des mammouths. C'est par un jeu subtil de lumière qu'on parvient à distinguer les formes et cette vie qui semble sortir de la roche produit une vive émotion. On découvre ainsi une 20aine d'animaux qui vont souvent par couple. Le reste de la grotte comporte des traces d'occupation humaine, une source ayant creusé un bassin à l'intérieur qui la rendait particulièrement hospitalière. Elle a ainsi abrité des hommes de Néandertal aussi bien que des Homo sapiens. Visiteurs privilégiés. En haut, le bâtiment en chêne brut conçu par l'architecte Patrick Hernandez
contient une courte exposition qui explique les différents aspects de la grotte, avec des ossements et des objets travaillés témoignant d'une occupation du site pendant 60 000 ans. La grotte est propriété de l'État. Pour des raisons de conservation, elle n'accueille que 12 000 visiteurs par an, souvent étrangers, férus de préhistoire. Peu de communication est ainsi diffusée à propos du site. Les visites demandent un peu de préparation puisqu'elles sont guidées et sur rendez-vous uniquement, mais le jeu en vaut la lampe à graisse.
Grotte de Père Non-Père. 2 chemin de Père Non-Père à Prignac et Marcan. 05 57 68 33 40. Père-non-père@monumentsaupluriel-nationaux.fr. www.père-non-père.fr. Accès au nord de Bordeaux à 10, sortie Saint-André de Cubzac, D669 direction Bourg.
Producteur de Gironde, le Chapon, un poulet giron et girondin. Depuis le milieu des années 1980, Hugues et Marie-Odile Faure, éleveurs de volailles girondins, notamment dans le Bazadais, renouent avec la tradition ancienne du chaponnage. Soutenus par le département, leur activité a acquis une solide réputation.
Les belles idées tiennent parfois à peu de choses. Elles peuvent même venir du goût de la bonne chair. Marie-Odile Faure, éleveuse de volailles à Sandets, dans le Bazadais, le sait. « J'aime manger », raconte son mari Hugues, qui l'aide sur l'exploitation et est également salarié d'une coopérative agricole. « Mais je suis très difficile. Dans le poulet, je ne mangeais que les contre-cuisses. Elle en avait assez. C'est comme ça que nous avons eu l'idée de faire du chapon. » Poulet castré, le chapon a en effet la particularité de ne plus courir après les poules et ainsi de développer une chair plus importante et plus grasse que ses congénères non émasculés. C'est une pratique très ancienne, dont les premières traces écrites remontent aux Égyptiens, précise Hugues Faure, car le capital animal était rare et on essayait donc d'avoir le maximum de viande de chacun. Le chaponnage se retrouve historiquement en Gironde et notamment dans le Bazadais, du fait de sa proximité avec les Landes. On y travaillait dans le bois et l'hiver comme métayer sur les terres de propriétaires fonciers, explique ce féru d'histoire. Le chapon servait à payer la location des terres. En 1947, poursuivit-il, avec le plan Marshall, les vétérinaires ont dit aux éleveurs de ne plus castrer les bêtes, mais de veiller à bloquer leur reproduction. Cela a duré jusque dans les années 1960 où les gens ont voulu autre chose. Le chapon a alors presque disparu de nos tables. Un retour à la tradition. Depuis le milieu des années 1980, la production est cependant repartie, comme le souligne Hugues Faure. Un chapon ou une dinde nourrit les grandes tablées de Noël. La dinde est cependant une viande un peu sèche, tandis qu'un chapon est infiltré de graisse persillée. Eux se lancent en 1987 avec 10 poussins au départ, 300 aujourd'hui. Ils ne sont pas les seuls parmi les éleveurs du coin et très vite, ils créent ensemble une association, l'Association des producteurs de chapons des deux vallées, qui possède sa confrérie et organise une foire annuelle à Grignoles, juste avant Noël. Durant cet événement, 1200 chapons sont vendus. Depuis, leur réputation n'a fait que grandir. La foire attire désormais chaque année 2000 personnes. Et depuis 3 ans, les chapons de Grignoles sont même une marque déposée répondant à un cahier des charges précis. Ils sont élevés et castrés selon la méthode traditionnelle, insiste Marie-Odile, en liberté et engraissés avec un mélange de pain, de lait et de maïs. C'est tout le secret de leur chair jaune si gourmande qui vous régalera pour les fêtes de fin d'année.
L'association compte une dizaine de membres. Une demi-douzaine d'autres éleveurs produisent des chapons en Gironde. Le département aide la structure associative avec une subvention annuelle de 3 000 euros.
Hugues et Marie-Odile Faure, Berdon à Sandets, 05 56 25 59 58, Hugues Faure 04 42@orange.fr. La foire au chapon de Grignoles se tiendra cette année le dimanche 17 décembre.
Recette. chapon braisé à la crème de champignons.
La veille, faites revenir à la cocotte 200 g de poitrine fumée hachée, les abats du chapon, 6 échalotes, 2 gousses d'ail et 4 carottes. Ajoutez 50 g de cèpe séchée et mixée. Mouillez avec 75 centilitres de porto et 75 centilitres de bouillon. Faites cuire 40 minutes. Le jour même, salez le chapon. Colorez-le pendant 10 minutes dans 30 g de beurre. Jetez le gras, puis ajoutez le bouillon et faites cuire à couvert 2 heures en le retournant de temps en temps. Égouttez-le et faites-le dorer 40 minutes au four à 240 degrés. Pendant ce temps, passez le bouillon, dégraissez-le et faites-le réduire de moitié. Salez, poivrez et liez-le avec 100 g de beurre et 20 centilitres de crème liquide. Découpez le chapon, le servir avec sa sauce et des petits gratins de légumes.
Tribune libre. Conformément à la loi, ces pages sont réservées à l'expression des groupes politiques départementaux. À ce titre, le Conseil départemental attribue un espace proportionnel à la représentativité des différents groupes qui composent l'Assemblée. Les propos publiés dans cette rubrique n'engagent que leurs signataires.
Groupe socialiste. Anticiper les besoins des Girondins pour répondre à la politique de non-concertation du gouvernement.
La volonté annoncée d'un dialogue de confiance entre le gouvernement et les collectivités par la voix du Premier ministre dans un courrier d'août dernier n'aura duré qu'un seul mois. Cet effet de communication est contredit dans les faits par l'annonce brutale de la baisse des dotations aux collectivités locales et par la fin des contrats aidés. Cette orientation politique du gouvernement signifie un affaiblissement du secteur public qui est le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Ce sont bien les populations les plus fragilisées qui subiront les conséquences de ce glissement vers un service payant. La majorité du Conseil départemental de la Gironde s'insurge contre cette dérive d'exclusion en interpellant directement le gouvernement par deux courriers dénonçant, pour les collectivités, la nécessité de réaliser des économies à hauteur de 13 milliards d'euros à l'horizon 2022, l'annonce brutale de la fin des contrats aidés. C'est par une anticipation des besoins, une planification efficace et un suivi rigoureux des budgets que nous refusons l'abandon pur et simple de certains volets de l'action publique ou l'augmentation systématique de l'imposition. C'est ainsi que nous pouvons assumer nos choix politiques en les faisant suivre d'actions concrètes. À ce titre, citons le plan collège dans lequel s'engage le Conseil départemental de la Gironde pour permettre de faire face aux enjeux démographiques que représente l'arrivée de 20 000 nouveaux Girondins par an. D'ici 2015, ce sont 7 600 collégiens de plus qui fréquenteront nos établissements. Face à ces besoins, 9 réhabilitations ont d'ores et déjà été engagées, auxquelles s'ajouteront 10 nouvelles entre 2021 et 2025. Sur cette même période, 12 nouveaux collèges seront construits, représentant un investissement de 350 millions d'euros. Dès son lancement, ce plan sera de suite touché par la suppression brutale des emplois aidés, pourtant indispensables au bon fonctionnement des collèges. En effet, sur les 230 contrats aidés recensés au département, 201 sont affectés dans les 105 collèges du département. Là encore, on ne peut que se désoler des propos de Madame Pénicaud, ministre du Travail, qui pour justifier cette baisse de 40% du nombre des contrats aidés, argumente sur leur coût, évalué à 2,4 milliards d'euros, alors que dans le même temps, le CICE a coûté 22,7 milliards d'euros pour des effets très limités. Malgré tout cela, le Conseil départemental de la Gironde réaffirme son rôle prépondérant d'institution de proximité afin de sauvegarder un équilibre humain et territorial harmonieux. Groupe politique socialiste 05 56 99 35 78 groupe -ps@gironde.fr Retrouvez l'information du groupe politique socialiste du département de la Gironde sur www.groupepsgironde.fr.
Europe Écologie Les Verts, Collège Ambition 2024, une opportunité pour la transition écologique.
En cette rentrée 2017, le Conseil départemental a annoncé la création de 12 nouveaux collèges en Gironde d'ici 2024. Le groupe écologiste salue cette ambition qui répond à la pression démographique que connaît notre département depuis plusieurs années. Ce plan d'investissement pédagogique, qui prévoit la construction de bâtiments à taille plus humaine, doit être l'occasion de faire progresser les politiques écologiquement vertueuses, bio dans les cantines, sobriété énergétique, accès cyclable, développement de l'économie circulaire, éducation populaire à l'environnement. Dès leur conception, ces collèges du XXIe siècle doivent être un laboratoire d'innovation démocratique, éducative, sociale et écologique au service des territoires qui les accueilleront.
Europe Écologie Les Verts, 05 56 99 67 03, notre site internet http://élu-gironde.eelv.fr, Facebook https://www.facebook.com/eelv. CD Gironde, Twitter, @élu au pluriel EELV-8CD33.
Gironde à venir, Fabienne Dumas, conseillère départementale du canton du Bouscat. L'annonce de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages français inquiète de nombreux élus et élus. ES. Est-ce votre cas ?
La taxe d'habitation constitue une ressource importante pour les communes. Remettre en cause cet impôt, ce serait mettre à mal la libre administration des communes. Par expérience, on sait que les engagements d'une compensation à l'euro près par l'État ne seront pas tenus dans la durée. Sans les rentrées d'argent de la taxe d'habitation, les collectivités territoriales seront obligées de réduire leurs investissements et les services apportés à la population, alors que la population girondine ne cesse de croître.
Vous êtes très investi au sein de la commission politique du RSA. Quelles sont vos préconisations sur le sujet ?
Au sein du groupe Gironde Avenir, nous pensons que le département de la Gironde doit faire plus en matière de lutte contre la fraude. En parallèle, nous devons également agir contre le non-recours au RSA. De nombreuses personnes pouvant prétendre à toucher cette allocation n'en font pas la demande. Il s'agit là d'une question de justice sociale.
Quelle est votre priorité pour le canton du Bouscat ?
Je suis une élue de terrain, également conseillère municipale à Bruges. Avec mon binôme, Dominique Vincent, nous avons à cœur de défendre le canton du Bouscat. Nous sommes à l'écoute des habitants, des associations, véritable lien social et de tous ceux qui font vivre ce canton. Gironde Avenir, groupe d'opposition de la droite et du centre, www.gironde-avenir.fr. Téléphone 05 56 99 55 87 ou 35 40. Retrouvez notre actualité sur Twitter et Facebook.
Front national, Macron, oui mais non.
Lors du second tour de l'élection présidentielle, la majorité socialiste du Conseil départemental de la Gironde s'était incarnée en résistant de l'an 2017, appelant à voter « pour le préférable » entre guillemets, contre Marine Le Pen. 3 mois après cette consigne de vote, les résistants se retournent aujourd'hui contre celui qu'ils ont fait élire, regrettant tour à tour la suppression des contrats aidés ou la nouvelle baisse des dotations aux collectivités. Dotation déjà largement amputée sous François Hollande. Tout cela était prévu, et il le savait, mais qu'importe tant qu'il s'agissait de « faire barrage » entre guillemets et de préserver leur boutique électorale, quitte à tromper les Girondins. Grégoire de Fournas, Front National. Retrouvez-moi sur Facebook est sur www.fn-medoc.fr.
Debout la France, les communes prises en otage.
Les collectivités locales contraintes à 13 milliards d'économies en 5 ans vont être obligées une nouvelle fois de se serrer la ceinture. L'actuel gouvernement se défausse sur les communes et les étouffe avec de nouvelles économies à faire tout en les privant des recettes de la taxe d'habitation qui assurait de nombreux services publics pour l'ensemble de la population. Ce gouvernement opère une mise sous tutelle de nos communes par l'État. Ces communes vont souffrir une nouvelle fois des baisses de dotations, servant de variable d'ajustement au détriment de l'intérêt général et des services de proximité apportés par nos communes. Phénomène encore plus marqué dans le secteur rural. Sonia Colmain, Debout la France, 07 50 29 07 09.
Agenda. Le département les soutient. Voici une sélection d'événements forts aux quatre coins de la Gironde.
Architecture et paysage. Le CAUE de la Gironde, en coédition avec Le Festin, vient de publier le 5e opus de sa collection Architectures et paysages en Gironde, Architectures et sites de loisirs. L'ouvrage vous fait découvrir l'univers des loisirs du département, ou comment s'amuser, se dépenser, se cultiver, se balader, à lire et relire. 05 56 97 81 89 www.caueGironde.com.
Rugby, 7 octobre, 18 et 25 novembre, 23 décembre et 6 janvier 2018, Bordeaux. Ne manquez pas les grands matchs de l'UBB. Le 7 octobre, les rugbymen Bordelot-Béglé affronteront Toulon au stade Matmut Atlantique. Le 18 novembre, Agen, Achabandelmas. Le 25 novembre, Brive, Achabandelmas. Le 23 décembre, La Rochelle, au stade Matmut Atlantique. Et le 6 janvier, Lyon, Achabandelmas. Toute l'actualité sur ubbrugby.com.
Histoire. Jusqu'au 7 janvier 2018. Bordeaux. Le centre Jean Moulin de Bordeaux accueille l'exposition 1917, Voilà les Américains. L'initiative s'inscrit dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. cnjm@mairie-bordeaux.fr.
Vélo un jour en ville, du 5 octobre au 14 novembre. Du 15 novembre au 21 décembre. Bordeaux. Vélocité propose 3 stages sur inscription pour apprendre à faire du vélo en ville. Une initiative qui s'adresse aux adultes débutants au rythme de 12 séances en 2 fois 2 heures par semaine. 05 56 81 63 89. vélo-cité.org/pour-apprendre.
Créateur. Samedi 7 octobre, Talence. Une nouvelle édition du marché de créateurs vous donne rendez-vous dans le parc Pexoto de 11h à 18h. Sous le bandeau « L'art et la manière », les talents multiformes s'expriment. 05 56 84 78 82 ou 05 56 84 78 85. www.talenceevenement.fr.
Safran, du samedi 14 au dimanche 15 octobre, du samedi 21 au dimanche 22 octobre, du samedi 28 au dimanche 29 octobre, à Béguet. Chantal et Thierry vous accueillent à la Safranière pour une visite commentée du site et une dégustation des produits réalisés sur place. Un délice. Téléphone 05 56 62 16 64 www.safrandegaronne.jimdo.com. Safran s'écrivant S-A-F-R-A-N.
Champignons. Samedi 14 octobre et samedi 28 octobre, Pessac. Venez participer à la sortie Champignons proposée par l'association Écocite du Bourgail. Les mycologues du CEMA, Centre d'études mycologiques en Aquitaine, seront là pour vous aider à mieux comprendre ces étonnants porteurs de chapeaux autonomes. À partir de 15h, dès 8 ans, 05 56 15 32 11, www.bourgail-pessac.fr.
Itinérance urbaine, samedi 14 octobre, Bordeaux. Dans le cadre des Journées nationales de l'architecture, le CAUE de la Gironde vous invite à vivre au rythme d'une itinérance urbaine reliant le futur siège du Conseil d'architecture, rue d'Ornano, à Bordeaux, au 308, siège de l'Ordre des architectes, à Bordeaux-Bastide. À ne pas manquer, mais attention, les places sont limitées. 05 56 97 81 89 www.caueGironde.com.
Plantes tropicales, samedi 21 octobre, Pessac. Le site du Bourgail accueille une splendide collection de plantes tropicales et subtropicales dans la serre des jardins. La visite promet une belle invitation au voyage, du Mexique à l'Australie, en passant par de subtils détours historiques. 05 56 15 32 11 www.bourgail-pessac.fr.
Ferme mobile. Dimanche 22 octobre, Pessac. La ferme mobile de l'association Écocite du Bourgail, première ferme pédagogique d'Aquitaine, traverse toute la Gironde. À Pessac, profitez d'une halte pour aller à la rencontre des races anciennes domestiques. Coq gascon, lapin chèvre, oie de Toulouse. 05 56 15 32 11 www.bourgail-pessac.fr.
Patrimoine. Mardi 24 octobre, mardi 31 octobre, mardi 26 décembre, mardi 2 janvier 2018, Bazas. Les richesses patrimoniales de la ville de Bazas se découvrent à partir d'un parcours commenté. Admirez entre autres la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, classée UNESCO, et découvrez un passage secret qui permet d'accéder à la cité. 05 56 25 25 84. Contact@tourismebazadé.com. www.tourisme-bazadé.com.
Street art, hip-hop, musique, du mardi 31 octobre au dimanche 5 novembre, Pessac. Les vibrations urbaines de Pessac fêtent leur 20e anniversaire sur un nouveau site et avec un skate-park flambant neuf. Les concerts sont aussi au rendez-vous du campus à la salle Belgrave. Adeptes du hip-hop et street artistes seront là pour faire de cette date un rendez-vous haut en couleur. Site internet www.vibrations-urbaines.net.
Musique. Du jeudi 2 novembre au vendredi 8 décembre, Léognan est tourné. Accueilli en résidence à l'espace culturel Georges Brassens, Léognan, dans le cadre des petites scènes de l'IDAC, Jules Nectar y peaufinera son tour de chant avant d'entamer sa tournée girondine. Mélodie subtile, texte ciselé et pop au programme. iddac.net www.julesnectar.com.
Art plastique du jeudi 9 au vendredi 17 novembre. Talence. La société Art Talence Aquitaine organise son salon de peinture et de sculpture. Sous le bandeau « Le Grand Prix de la Ville de Talence 2017 », les invités d'honneur sont Martine Joly, aquarelliste, et en sculpture, un hommage à Paulette Malta. À voir à l'espace François Mauriac, courriel sarta.a2so@orange.fr.
VTT, rando, trail.
du samedi 11 au dimanche 12 novembre. Sauternes. Le Raisin d'Or en Sauternes vous convie à une manifestation sportive dans le cadre exceptionnel du vignoble de l'appellation Sauternes et Barsac. VTT, randonnée pédestre et trail sont au programme. 05 56 15 32 11 www.baroudeurdusauternais.org Baroudeur au pluriel.
Littérature. Du mardi 14 au dimanche 26 novembre, Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine. La 14e édition du Festival de littératures étrangères accueille de nombreux écrivains venus d'Argentine, de Bulgarie, des États-Unis, de Grèce ou encore du Congo, du Mexique, d'Italie, du Maroc et de France. Ils décrypteront à Bordeaux et dans de nombreuses villes de la région notre monde contemporain. Lettres au pluriel du monde 33.com.
Assistant maternel, samedi 18 novembre, Bordeaux. Le troisième forum des assistantes maternelles et assistants maternels de Gironde aura lieu de 9h à 16h à l'immeuble Gironde, siège du département de la Gironde, 86 cours du Maréchal Juin à Bordeaux. Venez écouter les témoignages d'assistants maternels et de parents, mais aussi assister à la conférence de Maria Exposito sur le thème « L'accueil d'un enfant et sa famille, une histoire de rencontre ». Attention, nombre de places limité. Gironde.fr/ Forum-assistant maternel en un seul mot. Assistant et maternel au pluriel.
Cinéma. Du lundi 20 au lundi 27 novembre. Pessac. So British. C'est le thème du 28e Festival international du film d'histoire de Pessac qui réunira cinéastes, conférenciers et amateurs de la culture britannique. Les liens qui unissent la Gironde à l'île britannique ne manqueront pas d'être soulignés à travers un rendez-vous d'exception. www.cinema-histoire-pessac.com.
Enfance. Du vendredi 24 novembre au samedi 30 mars 2018, aux archives départementales à Bordeaux. L'exposition Enfance de la Renaissance au Baby Boom met en scène les documents d'archives, objets et supports multimédia évoquant les différentes étapes ou thématiques liées à la vie de l'enfant, de la naissance à la puberté. Un très bon rendez-vous pour aller à la rencontre de ces enfances avant le concept de l'enfant roi. Du lundi au vendredi de 9h à 18h, le week-end de 14h à 18h. 72-78 cours Balguerie-Stutenberg, www.archive.gironde.fr.
Chapon, dimanche 17 décembre, Grignols. Les producteurs des chapons des Deux-Vallées vous invitent à une nouvelle édition de leur grande foire autour d'un mets de fête dont la réputation n'est plus à faire. Engraissés au pain et au lait, les chapons donnent une chair des plus savoureuses. Noël ne sera pas loin. 05 56 25 55 77 05 56 25 50 00
Gironde Mag, le magazine édité par le département de la Gironde, direction de la communication 1 Esplanade Charles de Gaulle CS 71223 33074 Bordeaux CEDEX, téléphone 05 56 99 33 33, directeur de la publication Frédéric Duprat, rédacteur en chef Didier Beaujardin, coordination Laurence Tauzin, rédaction Didier Beaujardin, Stéphanie Coy, Sophie Dussaussois, Laure Espieux, Gwenaëlle Goyer, Amélie Colc, Carole Ratier, Laetitia Soléry, Damien Trident, Richard Zéboulon, Crédit Photo, Anaka, Archives départementales, Philippe Berthet, Boutique sans étiquette, CAUE Gironde, CD33, Gironde Habitat, Gwenaëlle Goyer, Steve Leclec, Sébastien Leclésio, Aurélien Marco, Joël Perroux, Punch Memory, Prendre soin du lien, Rénovation, Sébastien Ricois, Olivier Seguin, Sébastien Saint-Deux, Smicval Market, Laetitia Soleri, Théâtre L'Œil de la Lucarne, Richard Zéboulon, Céline Z. Conception graphique, Agence Bordeaux Prépresse et Chromie, Fanny Amiro. Impression sur papier, FSC recyclé 100%, Imaille graphique Laval, dépôt légal à parution, tirage 559 500 exemplaires, ISSN 1141 59 32, Gironde Mag est distribué gratuitement dans tous les foyers girondins, imprimé en braille et audio traduction. Si vous souhaitez vous aussi recevoir Gironde Mag, 05 56 99 33 33, poste 37 24.
Volley féminin.
Football.
Athlétisme.
Basket.
Badminton.
Rugby.
Hockey sur glace.
Jeunes au stade.
40 000 places offertes lors des rencontres sportives de haut niveau.
Saison 2017-2018. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Ces places sont offertes par votre département et les clubs élites 33.
Les jeunes encadrés par une structure d'animation girondine peuvent en profiter toute l'année.
Conditions d'accès, calendrier et pré-réservation en ligne sur gironde.fr/jeunes au stade.
La Gironde, partenaire de tes débuts.